C'est l'histoire d'un couple de vieux, Gérard et Josette. Installés sur leur terrasse parisienne, ils profitent de ce qu'il leur reste de vie. Un jour, Gérard est embêté car il perd Jeannine dans le quartier. Il la retrouve chez le pack-pack du coin, au rayon 20. Pas si folle que ça, la Huguette. Mais bon, malgré ce bon vivant, bien français, cela reste inquiétant car Mireille perd la tête et reconnaît de moins en moins le monde qui l'entoure. Et Martine, ça lui fait peur, ces souvenirs qui s'échappent, ce corps qui l'a trahi. Même leur fils Alex Lutz propose en vain la maison de retraite à ses parents et au final ne sait que faire face à cette déchéance au point que l'écran se scinde en deux et sépare la famille qui entre dans l'inévitable vortex de la fin de vie. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée avec l'ABA du dernier Gaspard Noé. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Vortex.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Mais tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Vortex, le dernier film de Gaspard Noé. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa BA, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film ma team de pépé et mémé agonisant.
Nous avions... Ils sont pas morts.
Super,
ils sont décédés d'ailleurs.
Tu m'as toujours déçu.
Ils sont revenus à la vie entre temps, j'ai réuni les 7 boules de cristal, tout ça. Papy Kevin est là autour de la table.
Oui. Tu m'as toujours déçu, Romain.
Mamie Clémence aussi est là.
Bonjour, Zach.
Bonjour, Mamie. Non, c'est pas Zach.
Zach ?
Non, c'est pas High School Musical, Mamie.
Pardon.
C'est Romain. Pépé Clément aussi est là.
Bonjour.
Salut, Pépé.
Le code de mon coffre, c'est 2-3.
Pépé, reviens. Et Mémé Johanna, pour finir.
Le trésor n'a pas bougé.
Oui, mais tu me donneras l'adresse exacte, Mémé, les coordonnées GPS, tout ça, parce que voilà quoi.
Pas bouger.
Bref, oula. On était cringe, hein.
Une ambiance.
On était cringe. Voilà. On avait tourné les serviettes, voilà. On avait chanté du Patrick Sébastien.
Ah,
voilà. Parce que. On va vite la prendre, enfin vous allez vite la prendre au cours de ce retour, match retour critique à vie. Que. Eh ben, c'est pas la joie avec Gaspard Noé. On va quand même garder du sourire dans nos voix pour en parler.
Mais oui.
C'est l'heure de notre match retour sur Vortex. Mais avant toute chose, il faut préciser s'il va y avoir du spoil ou pas dans ce match retour. Et c'est l'ami El Calculator qui s'occupe de tout ça. Bonjour El Calculator.
Salut les momies.
Oh.
Ah ouais, ok.
Que l'est donc cette étrange machine ?
Les mamies.
Je suis un ordinateur.
Alors, El Calculator... Pourquoi j'ai fait une césure comme ça, je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on se situe, nous, en termes de spoil pour cet épisode ?
Pour Vortex, le taux de spoil sera de... 100%. On va tout dire.
Oh.
Et il meurt à la fin. Ouais.
Oh, bah, dis donc,
ouais. Bah, alors.
Ah bah ça, c'est une surprise. C'est une véritable surprise, mais oui, c'est...
Tu l'as vu, El Calculator ?
Je l'ai vu.
Est-ce que ça t'a mis face à la finitude de ton existence, El Calculator ?
Oui, j'étais BDR, comme vous dites.
Au bout du rouleau, le pauvre.
Voilà, le pauvre.
Ça a été très dur après. Hein. Mais ça va mieux depuis.
Il a dû me rebooter.
Oui, bah, obligé, plus rien de fonctionner.
D'ailleurs, vous êtes qui ?
Il perd la tête.
L'Alzheimer.
Par contre, t'as gardé une fonction que t'as pas oubliée, El Calculator.
Oui, c'est... 1,6 plans
non.
Par...
C'est pas mal, hein, c'est énorme ça.
Ça en mêle les pinceaux.
La démence virtuelle, mais t'inquiète pas, je vais aussi le rebooter, bien sûr. Mais bah, si, cherche au fond, tu verras la roue de la chance.exe.
C'est quoi ça ?
La roue de la chance.exe, c'est ce qui nous permet de savoir qui va résumer la vraie histoire de la vraie réalité, parce que c'est vrai que
Huguette... Ça n'a pas l'air super.
Non, mais si, tu verras.
C'est vraiment plus le même.
Tu vas la lancer et tu verras, tout va te revenir. Mais bon, Huguette, Martine, Gérard, Josette... D'ailleurs, on s'est amusé à changer le nom et tout, parce qu'on n'avait pas leur nom, on s'était imaginé. Mais en fait, dans le film, au final...
On ne sait pas leur nom.
Non, on n'a toujours pas leur nom.
Comme quoi, on n'est pas si con.
On ne sait pas.
Hein,
si, on est con.
Oui, on est con. Mais
non, je pas fait gaffe au générique, comment ils s'appellent.
Non, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de...
Il n'a pas de prénom ?
L'homme, la femme.
Papa, maman.
Ni juste, ni le blanc, on ne sait pas. C'est papa, maman, monsieur, madame.
La roue de la chance.
Voilà. Ah, okay. Oh là là, il est déprimé, le pauvre.
Johanna.
Bonsoir.
Johanna, tu résumes Vortex.
Très bien. Ils sont vieux, ils sont pas bien, ils meurent.
Non, je... Merci. On ne peut faire plus simple.
Ouais, c'est l'histoire d'un couple plutôt en fin de vie, on peut le dire.
C'est un euphémisme.
L'homme a eu un AVC, c'est ça ? Non, pas un AVC, il a eu
un accident cardiovasculaire.
Ouais. Quant à sa femme, elle est en train de... Le mot n'est jamais prononcé, mais... Elle est en dégringolade d'Alzheimer,
ouais,
donc
démoncée.
Elle commence à perdre ses repères par moment. Elle a pas, enfin vraiment par moment, elle perd un peu ses souvenirs et toute sa tête. Et donc ce couple a sa propre dynamique un peu comme ça, de deux personnes malades qui habitent ensemble et qui cohabitent comme elles peuvent. Et arrive le fils qui n'est pas venu les voir depuis quelques semaines et qui constate que l'état de sa mère se dégrade. Et donc s'ensuit des discussions et déjà au début le constat de ça. Ensuite il essaye comme il peut de trouver des solutions, ce fils, mais il a lui-même une vie déjà compliquée à gérer parce qu'il est... On comprend qu'il a un passé compliqué, donc il est en cure de désintoxication ou quelque chose comme ça.
Il était héroïnomane.
Il était héroïnomane. Sa femme, enfin son ex-femme et la mère de son fils est malade. Donc il a la garde en ce moment de son fils. Donc il doit gérer ce fils qui a un enfant en bas âge qui est insupportable. qui aime bien les voitures qui se percutent.
Sacré kiki.
Et il doit gérer en même temps donc la fin de vie de ses parents qui refusent d'aller en maison de retraite et de quitter cet appartement qu'ils occupent depuis des années et des années et où se trouvent tous leurs souvenirs.
Ouais. Et ça se passe à Paris.
Ça se passe à Paris.
Et ça finit pas bien.
Pas bien pour le coup. Oui, ça finit pas bien du tout. Lui, juste pour préciser,
ben,
il écrit
ça se
un
discute
livre.
La fin, si ça finit bien ou pas.
Oui, est-ce que c'est une délivrance ou...
Oui, parce que pour moi, il y a quand même une question à se poser sur le droit de partir dignement aussi.
Certes, mais ça finit quand même sans une seule once d'espoir. Quoi.
Non, ça c'est
Bah, espoir, ils sont en fin de vie, quoi.
Non, mais
ce qu'Alex
Lutz dit à son fils, c'est quand même vraiment désespérant.
On va en parler de tout ça, mais voilà, ouais. Et lui, il écrit un livre aussi sur...
C'est ça, donc le père écrit, le grand-père on va dire,
Dario Argento.
On va l'appeler Dario Argento, est en train d'écrire un livre sur le cinéma
et les rêves.
Et les rêves. D'ailleurs le film commence sur la phrase « La vie est un rêve ».
Dans un rêve.
Dans un rêve.
Ouais.
C'est le Inception cinématique univers.
Et elle commence aussi sur autre chose, une espèce de dédicace à tous ceux qui vont voir le film. C'est à tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur.
Avant le cœur, oui.
C'est exactement
et
ça.
D'ailleurs, il y a un truc qui est très mignon, c'est que le film commence sur un plan que je pense que c'est une dédicace claire à Domicile conjugal de François Truffaut, où il y a un couple qui habite dans un appart agencé un peu bizarrement, qui fait qu'ils se parlent de fenêtre à fenêtre, mais en étant dans le même appart. Et je pense que c'est une dédicace, le plan de début.
C'est un appart très bizarre. Enfin, j'ai pas réussi à me repérer trop dans l'espace.
C'est normal.
Ouais.
Mais je pense que c'est totalement fait exprès.
Parce que c'est fait exprès. Ah oui, et l'autre enjeu aussi, c'est que la femme... était avant psychiatre, donc avait la possibilité de faire des ordonnances. Et en fait, le fils est très inquiet parce qu'elle continue de s'en faire à elle-même et à son mari et aller chercher les médocs à la pharmacie du coin.
Très présent aussi, hein, tout ce qui est drogue, médicamentale, ouais. Enfin, entre guillemets, quoi. Mais c'est du Gaspard Noé, hein, faut pas non plus oublier les thématiques. Donc, ça reste très présent, mais là, vu sous l'angle de la fin de vie, la solitude, la décrépitude, plein
c'est
de
ça.
Mots comme ça joyeux.
Bon, un peu déçu qu'il n'y ait pas d'extincteur dans ce film.
Très très rassuré qu'il n'y ait pas d'extincteur.
Et je pense que ça ne sert à rien de résumer plus, sinon ça gâche le film, au fait.
Ben, y a pas, après, il n'y a pas mille non plus choses à raconter, quoi, parce que c'est vrai que c'est une lente agonie.
C'est écrit dès le synopsis que c'est les derniers jours de la vie de ce couple. Comment ça se termine, c'est pas un spoiler. Voilà,
c'est la fin de vie, c'est l'attente, quoi. Donc le film est très lent, mais voulu. Donc à partir du moment où la mise en scène répond aussi à cette lenteur, c'est pas non plus l'ennui total. Enfin, si vous adhérez du moins au procédé du film.
Pas du tout. Mais...
On va tout de suite nous rentrer dans nos avis, notre critique, mais on va d'abord comparer la BA au film avec le douille ou pas douille, simplement.
C'était une douille.
Douille,
c'était pas une douille.
On avait vu la BA la semaine dernière. On avait très envie de voir le film, notamment parce que Gaspard Noé, ça ne se manque pas au cinéma. C'est même mieux au cinéma, j'ai l'impression. Est-ce que du coup, la forme finale du film est cohérente avec ce que nous avons dû, la bande-annonce? Clément, douille ou pas douille?
Non, c'est pas douille. Pour moi, c'est fidèle à ce que j'attendais. Il y a à la fois le côté... dépressif, mais aussi le côté émouvant. Et la surprise, c'est le personnage d'Alex Lutz qui n'était pas du tout développé dans la BA et qui, je trouve, est une excellente surprise du film.
Johanna, douille ou pas douille?
Pas douille, hein, dans la forme. Dans la BA, on a vu ce procédé de split screen qui est très utilisé dans le film et qui est très intelligemment utilisé dans le film. Et puis, peut-être le rythme est étonnant pour un Gaspard Noé. Mais en tout cas, dans les thématiques et dans ce que la BA vendait, c'est pas douille du tout.
Clémence, même question.
Pas douille non plus du tout, parce que c'est exactement ce que je m'attendais connaissant Gaspard Noé. Formellement, c'est vraiment magnifique comme la BA. Et à la fois le rythme, je trouve que ça reste quand même proche de ses autres films, dans le sens où c'est très proche de la réalité, très réaliste, sans phare. Et du coup, on est en pleine immersion dans la réalité, quoi. Et en même temps, ça a été une expérience très forte, un moment très fort de cinéma.
Kevin ?
Bah, pour faire original, comme vous, pas douille, pour les raisons que vous avez dites. Après, j'ai peut-être une mini douille formelle, mais qui est positive, dans le sens où je trouve que le film est extrêmement sobre. C'est une bonne chose vu le sujet, mais qui n'est pas toujours le cas de Gaspard Noé.
Il y a
toujours une explosion, un truc qui pète, quelque chose. Après, il y a peut-être une scène en particulier, on en parlera peut-être, qui... à cette petite immersion dans l'expressionnisme, mais sinon plutôt sobre et étonnant de sa part, je trouve.
Que des padouilles.
Et toi, Romain?
Est-ce que je chipote ou est-ce que je chipote pas?
Tu peux.
Parce que sinon, c'est un padouille. C'est vrai que le film nous vendait clairement ce qu'on a vu. Hein. Même dans ce qui était de la musique, avec Françoise Hardy. Le film commence sur Françoise Hardy. Voilà, c'est encore plus amplifié étant donné qu'on a le clip de cette musique qui est un face cam en fait de Françoise dans ses plus belles heures, dans sa plus belle beauté. Donc voilà, et avec, il chante une chanson en plus sur une fleur qui fane, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça. Donc le film s'ouvre sur ça, et y a tout le procédé du split screen, mais si je dois chipoter un peu, c'est juste qu'il y a des split screens, du coup, qui sont pas montrés correctement, qui sont mélangés dans la BA, certainement, peut-être. Ouais, j'ai remarqué ça.
Il y a eu des mix dans la BA.
Oui, oui.
Il y a eu des petits mix, il y a eu des petits isolements aussi de split screen, mais c'est un procédé de BA, tout simplement. Et aussi parce que ça faisait peut-être plus sens en BA à ce moment-là que de montrer le procédé du film, parce que le film s'ouvre sur un split screen qui se crée en fait.
Oui,
au début, donc, c'est pas un split screen.
C'est génial ça.
Donc voilà, au début, on est simplement sur un écran simple de forme carrée. Et ensuite, quand on rentre dans le quotidien de ces deux vieux qui dorment dans le lit, on a une bande noire qui vient séparer l'image en deux et qui sépare du coup le couple et qui les prépare à la solitude, chacun de leur côté, bien qu'ensemble, dans le même appartement.
La vitesse à laquelle cette bande se déploie, c'est vraiment très lent. Très fataliste, quoi. Enfin,
ça s'arrête même à un moment, fatigue. Ça attend que la main sorte du.
Mais tu sais, c'est vraiment, ça va lentement, comme un truc, comme le temps qui passe, quoi. Comme un truc que tu peux pas arrêter, mais qui est là.
Donc voilà, juste la mini douille sur ça, c'est qu'il y a des images en fait qu'on voit dans la BA en split screen qui en fait sont pas ensemble dans le film. C'est du pinaillage, mais sinon, oui, pareil, la chanson de Françoise Hardy qui s'éteint dans la bande-annonce. On le retrouve aussi dans le film avec cette vieille mélodie qui vient du loin, comme une rumeur de la ville en fait, qui vient clore le film en fait. Et tu te rends compte que c'est la mélodie de Françoise Hardy qui est là, qui te rappelle que...
on est bien peu de choses.
Ah là, on est bien peu de choses. Mais sinon, oui, le film, comme tu disais Clémence, faut s'accrocher, quoi, parce que même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chaque film de Gaspard Noé est une expérience, à chaque fois nouvelle en plus, j'ai l'impression.
qui répondent à ces thématiques claires à son cinéma, mais qui t'embarquent à chaque fois dans des univers différents. Tu t'en ressors pas indemne. Tu t'en ressors pas indemne, et Vortex, tu t'en ressors pas indemne, quoi. C'est truc de fou furieux. Donc ouais, on va tout de suite peut-être se lancer dans nos critiques du coup sur le film. Je pense que tout le monde a aimé, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Mais on va peut-être rentrer plus en détail. Kevin, tu veux ouvrir le bal peut-être ?
Bah, si vous voulez. Moi honnêtement, je trouve que c'est, je pense, enfin à mon sens, c'est peut-être son plus grand film actuellement. C'est dur d'en parler parce que c'est un film qui est extrêmement dense, mine de rien, c'est quand même 2h22, 2h22 de fin de vie de personnes, 2h22 d'agonie finalement, mais cette agonie lente en fait du quotidien, quoi, de quand tu vieillis, que tu, soit tu perds la tête, soit tu t'accroches à ta vie passée parce que ça te fait te sentir vivant. Et je trouve que c'est un des éléments qui est, qui est vraiment extrêmement touchant dans le film, c'est à partir du moment où l'écran est splitté, et que tu vois quasi en temps réel les deux membres du couple qui vivent leur vie, t'as deux traitements en fait de l'agonie qui sont très différents. Ils sont tous les deux seuls dans leur propre vortex finalement. D'un côté tu as la femme qui a son Alzheimer qui est là, donc qui est un peu perdue, qui est déjà un peu morte en fait finalement. C'est un peu, pour moi c'est comme ça que je comprends le sens, ouais, c'est un peu le sens que je trouve dans la phrase d'introduction du film, ceux dont le cerveau s'éteindra avant le cœur. Et de l'autre côté, on a Dario Argento qui s'accroche à son livre comme si c'était la dernière chose qui pouvait lui permettre d'être vivant, parce qu'il avait encore son esprit, il y a encore son esprit qui fonctionne.
Et un autre amour aussi, on comprend.
Et un autre amour, il s'accroche encore à la vie, et en fait sa femme lui rappelle tout le temps la finitude. Et d'ailleurs, il y a un très beau plan, je trouve, qui évoque ça. C'est à un moment, il met un film à la télé. Et c'est un enterrement en first person, en POV.
Ouais.
Et regarde, et je sais pas ce qui est, c'est très beau, je sais pas quel est le film. Si vous avez vu le film, moi je veux bien savoir, je veux bien avoir la ref. Ça doit être marqué dans le générique, mais j'ai pas fait attention.
Ça c'est je crois que c'est marqué dans le générique. Ouais, il y a beaucoup de refs de films.
Comme le générique au début.
Et comme le générique au début, j'ai pas fait gaffe. Et voilà, et ce parallèle-là entre ces deux personnages, je le trouve vraiment extrêmement touchant et extrêmement vrai, quoi. Enfin, pour ceux qui ont déjà assisté un peu à la fin de vie de personnes âgées, je trouve que c'est d'une très grande justesse, et c'est ça qui est difficile dans ce film, c'est que malgré sa beauté, on te met face aux choses, et ça c'est Gaspar Noé qui c'est son cinéma habituel, hein, c'est je vais te montrer ce que c'est en fait, je vais te montrer ce que c'est entre la fin, quoi. Tu vas voir ce que c'est finalement, tu vas voir vraiment, on va pas t'enluminer ça, on va pas te faire de la mise en scène à outrance, on va pas te mettre des violons, non, la mort c'est ça, je te le montre comme il a pu montrer qu'un viol c'était ça dans Irréversible. Et je trouve qu'on a besoin de cinéastes comme Gaspar Noé aujourd'hui, parce que même si c'est difficile, même si c'est des expériences de cinéma qui sont parfois traumatiques et qu'il y a des gens qui supportent pas, nous on a une personne dans la salle qui est partie au bout de 10 minutes, parce qu'elle n'a pas supporté.
Il y a plein de gens qui sont partis.
Voilà, le rythme lent, etc. Je trouve qu'on a besoin de gens comme ça, parce que le cinéma, ça sert aussi à ça. Et je trouve qu'il a quand même ce talent-là de à partir d'un postulat qui pourrait faire fuir beaucoup de gens, hein, de 2h20 de vieux qui sont en train de vieux en split screen, qui sont en train de mourir. Il te fait un film qui est juste passionnant, quoi. Je trouve qu'on s'ennuie jamais parce qu'on est piégé aussi dans le vortex. Le vortex, c'est aussi le spectateur qui le subit, enfin qui le vit, parce qu'on est dedans, on est emporté dans le tunnel, et à la fin, bah, on est juste face à l'irrévocabilité du truc, quoi. C'est qu'on va tous mourir, et c'est ainsi qu'on va finir. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même une beauté là-dedans, et même si c'est dur, et même si on en sort, moi j'en suis sorti, j'étais pas bien, j'étais un peu fourmi, tremblement.
Ah ouais, enfin, silence de mort, hein, moi, dans ma séance.
Horrible, mais je trouve que même s'il te montre les choses dans leur de manière crue, il y a quand même une beauté qui se dégage de la chose, et je sais pas, je peux pas m'empêcher de repenser au film d'une manière un peu poétique, en me disant que certes ça finit, mais qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses à vivre. Et voilà, je trouve que c'est, au-delà d'un film, c'est une expérience à vivre, quoi.
Mais je crois que la beauté, elle est dans les non-dits, en fait, parce que tu t'imagines le passé qu'ils ont vécu. C'est notamment montré avec toutes ces photos, ces affiches qui alimentent l'appartement, qui est un peu bordélique, même, clairement.
Et même les livres et tout. Et
voilà, c'est que des souvenirs amassés, c'est toute une vie qui est là et tout. Et je pense que la beauté, elle réside dans ça, où vraiment, toi, t'es vraiment juste voyeur de ce qui se passe, et tu t'imagines en fait ce qu'a pu être l'amour, et maintenant est la mort, quoi, de l'amour à la mort.
Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que moi je suis très philosophiquement, je suis très matérialiste dans l'idée, c'est-à-dire que je pense que les objets qu'on possède, enfin je dis pas qu'il faut posséder des choses, c'est pas dans ce sens là que je veux dire, c'est le matérialisme dans le sens où dès qu'on possède des choses et qu'on les accumule, c'est des extensions de nous, et que forcément quand tu es vieux et que tu habites quelque part depuis longtemps, bah tes possessions elles s'étalent de partout et c'est un peu ta vie quoi, enfin c'est et c'est pas le fait qu'il y ait des livres jusque dans les chiottes, qu'il y ait des qu'il y en ait juste partout, ouais, que ce soit le bordel envahis, absolu, ouais. Qui est, je sais pas, juste ces images là, rien qu'avec ça tu comprends tout ce qu'il y a eu comme vécu, comme pensée, comme enfin je sais pas, j'en perds les mots,
parce que ce qu'abrite les souvenirs qu'abritent les murs quoi,
c'est ça.
Et autre chose qui est fort aussi, et je pense que ça participe justement à notre expérience, c'est le processus de mise en scène, qui est en fait en soi totalement con. C'est juste deux caméras sur deux axes différents qui suivent dans cet appartement qui est un peu dédalesque, hein, qui doit pas être, en fait qui doit pas être si grand que ça, mais la manie, ce processus là nous perd parce qu'on suit deux personnages, et pourtant moi j'ai pas réussi à me retrouver dans l'espace, tu vois, c'est clairement voulu, mais le processus de mise en scène du split screen favorise la chose, et moi j'ai adoré ça, j'ai adoré ce processus, j'ai trouvé ça, mais c'est un génie en fait, c'est du génie comme idée, c'est tout con quoi. C'est pas juste un split screen où vraiment ça a été tourné, non, c'est vraiment tourné en même temps, il y a un système de chronométrie de l'action au coupé, tu vois, qui marche bien, où on a plusieurs visions.
Ça rejoint un peu de Phaser dans le côté le montage délimite la maison, et en fonction du montage t'as carrément des pièces qui sont plus du tout pareilles, qui sont plus meublées de la même manière. Ça sert à la fois à marquer le temps qui passe et en même temps aussi la folie dans laquelle ils sont enfermés. Ouais, il y a un gros travail. C'est Jean Rabas, le décorateur, c'est un grand chef déco français. Et justement, Gaspard Noé, il expliquait qu'il lui a volontairement demandé de faire une maison qui n'a pas de sens. Pour que le spectateur puisse jamais dire « Ah tiens, là, elle va aux toilettes, là, elle va truc. » Et on est constamment perdu comme elle, quoi. Et ça fonctionne très bien.
Mais c'est super intéressant parce que ça rappelle complètement The Phaser. Mais dans The Phaser, la perdition, enfin le côté perte de repère géographique dans la maison était traité par des ellipses de montage. C'est-à-dire que d'un seul coup, paf, on passait à un autre moment et on avait perdu en même temps la notion du temps. Tandis que là, on est beaucoup plus dans un temps réel, et justement, le split screen et les deux points de vue mêlés sont ceux qui permettent de perdre les repères et à la fois de les voir se croiser, mais d'être dans deux endroits souvent à la fois et d'être toujours dans une recherche de « alors là, on est où par rapport à tel autre endroit ?» ce qui nous donne, nous, l'impression d'être perdu aussi. Et en même temps, je trouve que ça montre aussi très bien quelque chose d'hyper beau dans le couple, c'est à quel point, même s'ils sont séparés, ils vivent leur fin de vie chacun à leur manière, ils sont aussi un repère l'un pour l'autre. On voit à chaque fois que elle, de son côté, même si elle est complètement perdue, elle ne sait plus où elle est, elle revient vers la pièce où lui, il se trouve pour le regarder. Ou alors que lui, il se sent responsable d'elle. Et pareil, il y a une espèce de surveillance, surveillance mutuelle entre les deux. Ils passent l'un après l'autre à chaque fois dans les endroits pour presque... comme s'ils avaient tellement l'habitude, l'un allume le feu, l'autre prend le café chaud et éteint le feu. Enfin, ils se relaient en fait presque. Ouais. C'est super beau.
C'est très beau. Et toi, Johanna, qu'en penses-tu ?
Moi, j'ai vécu le film moins en déprime que vous, j'ai l'impression. Parce que, en fin de compte, je trouve que, pour aller directement à la fin du film, parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses dessus, il y a un truc principal qui m'a plu, c'est que ces deux personnes ne sont pas infantilisées par leur fils. Je trouve que le fils est une des vraies bonnes idées du film. Parce que même s'il a l'air d'avoir un passé compliqué et tout, je trouve qu'il apporte une douceur à tout ça qui est hyper touchante. Je pense que j'ai dû chialer à toutes les scènes entre le fils et sa mère, à peu près,
pareil,
dans le film. Il apporte une vraie douceur et j'ai adoré la scène où il propose à ses parents de trouver une place en maison de retraite. Il a quasiment trouvé un endroit où ils peuvent être en couple et où les parents refusent. Qui est une scène qui est à la fois terrible, mais en même temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on est dans une société où des fois on infantilise les personnes âgées. Parce qu'en effet, dans le fait de vieillir, il y a un truc où tu retournes un peu en enfance. Mais en fait, ses parents lui disent qu'ils ne veulent pas y aller. Ils les écoutent malgré la situation, malgré le fait qu'ils sont dans un équilibre fragile et tout. Au final, ils ont le dernier mot. Et ça, je trouve ça assez beau. C'est qu'il y a une dynamique d'écoute et de... on a l'impression que dans cette famille, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites et qui sont dites maintenant, ouais, quoi, du fait de la situation. Et du coup, ces scènes-là m'ont beaucoup touché.
Il y a un respect de la dignité,
c'est ça,
clairement, de la part
d'Alex. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une lueur d'espoir, c'est que lui, il meurt amoureux et qu'elle, elle choisit sa fin de vie, au fait, en fin de compte. C'est que plusieurs fois dans le film, elle dit « ce serait plus simple si je mourais ». et ça n'arrive pas. Enfin, tout le monde lui dit mais non, faut pas dire ça et tout. Et en fin de compte, quand elle a plus son mari, ben c'est elle qui décide que voilà, maintenant, j'ai envie que ma fin de vie ce soit ça ici maintenant. Et elle a pas envie de finir vraiment triste ou de perdre
ou dépendante
ou de perdre vraiment toute sa tête. Et ça pose une vraie question de dignité et de
d'intégrité
quoi. Qui est un vrai débat en France, c'est à quel moment on te laisse choisir le moment où tu veux partir, quoi, quand tu as un certain âge ou quand tu es atteint de certaines maladies. Quoi.
Tu veux boire un peu d'eau, Joana?
Non, c'est juste coincé dans la gorge.
Quand tu t'es transformé en Dario Argento.
Et pour revenir sur cette scène, c'est vrai que c'est un long plan séquence où il y a discussion entre Alex Lust et ses parents sur l'avenir, quoi, enfin sur le peu d'avenir qu'il leur reste, et puis lui aussi sa part de responsabilité. Bref, il fait son rôle de fils, tout ça. Et cette scène, apparemment, a été quasi improvisée, voire totalement improvisée, juste avec quelques directives de Gaspard Noé, et pour justement trouver ce réalisme pur qu'il cherchait. Et ça fonctionne plutôt bien. Et toi aussi, Clément, tu disais que Alex Lutz t'avait marqué.
Ouais, mais les trois, en vrai, parce que franchement, je reviens toujours à Gaspard Noé parce qu'il a vraiment des intuitions quand même. C'est fou, quoi. Ce casting, Dario Argento qui a jamais joué la comédie, Françoise Lebrun qu'on n'avait plus revu depuis assez longtemps, Alex Luce dont tu te dis tiens, qu'est-ce qu'il peut faire dans cet univers-là et tout. Et en fait, ça fonctionne tellement bien, on dirait une vraie famille. Genre la scène où Dario Argento lui dit on est une petite famille, on est trois personnes, mais on est une famille. J'ai chialé ma race. C'est Noé, c'est que il a vraiment une façon unique de mettre en scène, et c'est une sorte de chef d'orchestre discret, quoi. T'as l'impression qu'il laisse toute la place à ses interprètes, et ça rend le film bouleversant. C'est que il y a énormément d'impro dans les dialogues, mais je pense aussi qu'il y a des scènes qui ont été improvisées en termes de mouvement de caméra. Enfin, comme c'est un split screen, tu regardes un peu les deux écrans en même temps, et des fois il y a des juxtapositions d'images, tu vois qu'elles ont été calculées, genre la scène des toilettes et en même temps le fils qui se shoot et tout. Bon, là il y a des trucs, mais des fois je pense qu'il y a un peu des accidents imprévus de deux personnages qui se retrouvent dans des postures identiques ou des postures opposées, il est trop fort pour créer des miracles de cinéma, quoi, des accidents de cinéma qui n'en sont pas. Et ça me fascine comment il met en scène, parce que il est unique en France, unique au monde, quoi. Je pense que ce mec, c'est vraiment il a un talent pour mettre dans un mood tout le monde sur le plateau et le spectateur avec, parce que c'est pas agréable comme film, franchement c'est éprouvant, quoi. Tu sors de là comme à chaque fois t'es lessivé, sauf que quand il repense tu fais mais putain, mais en fait j'ai encore vu un film de ouf, quoi. Il m'a encore retourné. Et je pense qu'il envoie aussi sûrement pas pour ça qu'il le fait, mais il envoie un putain de message à tous les gens qui disent que c'est un cinéaste provoque, qu'il est là que pour choquer le bourgeois et tout. Et là, enfin, c'est impossible de dire ça après ce film dans sa filmo, parce que c'est un film profond. C'est à l'os, hein, c'est tellement à l'os qu'il y a quasiment rien. Enfin, c'est l'épure, quoi, totale en mise en scène. Et voilà, il y a zéro provoque. C'est d'une. À la fois, c'est très voyeur, comme tu disais, et en même temps très pudique. Et enfin, voilà. C'est un film bouleversant, je trouve, et qui te marque comme tous ces films et que t'as pas envie de revoir parce que c'est du one shot, quoi. Et c'est à voir en salle, vraiment.
Je me faisais la réflexion que c'est du one shot. J'ai jamais vu ces films plus d'une fois, en fait.
Pareil.
Parce que je pense que l'expérience est unique. Déjà, elle doit se vivre au cinéma. Pour avoir essayé avoir retenté de voir Hunter the Void sur ma télé, j'ai fait en fait non.
Ouais,
j'ai arrêté très vite. Mais comme tu disais, je trouve que c'est quelqu'un qui réussit à véhiculer des messages de vie, en fait, parce que chaque personnage de ses films, c'est simplement des personnages de la vie quotidienne. Il n'y a jamais, je sais pas, il ne fait pas la vie d'une star ou un truc comme ça. C'est toujours des personnages qui sortent. Genre là, c'est un couple de vieux qui ne sont pas riches, qui ne sont pas bobos, qui habitent certainement dans un quartier un peu miteux, si on en voit la cour et tout, un appartement pareil.
Ils sont à Stalingrad.
Je pense, oui. Un truc comme ça, mais surtout qu'il y a une réflexion à chaque fois sur ces mises en scène où par exemple dans Irréversible il s'est dit bah tiens, si on commençait par la fin, Hunter the Void, bah, viens on fait un trip
c'est
à la première
concept, en fait,
à la première
fois.
Personne,
il va au bout, quoi. Il va au bout
faisons une histoire d'amour pornographique avec Love, enfin il y a toujours un concept qui fonctionne et qui fait sens, climax pareil, tu vois. Mais et c'est peut-être ça qui marche aussi dans sa filmo et qui donne cette envie d'y aller à chaque fois, peut-être à reculons, mais de vivre des expériences, quoi.
Non, moi je pense surtout que c'est la preuve parfaite que c'est un réalisateur qui, au fond, te fait du bien quand même. C'est très très paradoxal, mais je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui a un point de vue en contraste. Effectivement, il te montre les choses de manière très dure et très crue, mais à chaque fois, c'est doux-amer, c'est vraiment doux-amer. Enfin, c'est amer-doux. Tu vois d'abord l'amer et ensuite tu vois le doux. Et le doux, il est là, mais tu peux pas l'éviter, en fait. Ça te fait apprécier des choses par contraste. Vraiment, là, on parle de la mort. Et effectivement, on montre à quel point, enfin, on laisse imaginer à quel point il y a eu une vie avant et à quel point les souvenirs comptent. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un truc dont on a besoin. Je trouve que ce film, c'est vraiment un exutoire. Il m'a fait le même effet émotionnel que quand tu vas à un enterrement, en fait. Un enterrement, c'est très dur. C'est le moment où tout le monde s'épanche, le moment où tu peux pas faire semblant, quoi. Et en même temps, c'est quelque chose qui est nécessaire, tu vois. Enfin, c'est un truc dont on a. Si ça existe, c'est qu'on en a besoin, en fait. Et bon, voilà, là, je dis ça parce que le film parle de cette thématique, mais même en général, dans tous ces films, je trouve que c'était pareil avec Irréversible, je le pensais déjà. Et même, voilà, le fait que souvent, il y a des histoires de drogue et tout, d'excès, pour moi, ça se rapproche aussi de la série Euphoria, tu vois. C'est quelque chose, vraiment, sa thématique, à lui, c'est l'intensité de la vie et à quel point elle est intense et dure, mais à quel point elle est belle. Donc voilà, je.
Et à quel
vraiment...
point elle s'arrête aussi à un moment, quoi. Donc ça
ouais.
aussi.
Mais c'est parce qu'elle s'arrête qu'elle est belle, tu vois. Enfin, c'est pour ça, c'est ce que dit aussi la chanson de Françoise Hardy. Donc je trouve ça magnifique. Moi, vraiment, ce que je retiendrai le plus, et ce qui... j'ai pas pleuré, mais j'étais hyper tendue. Et ce qui m'a le plus bouleversée, c'est effectivement cette idée à la fin des plans qui se succèdent sur l'appartement une fois que les deux personnes sont mortes et que l'appartement va être vidé. Et on voit petit à petit disparaître pièce par pièce les livres entassés, toutes les affaires, tout rentre dans des cartons et tout se vide. Et alors ça m'a aussi fait beaucoup penser à A Ghost Story qui m'a bouleversée exactement sur la même thématique. Parce que le lieu est très important, la manière dont une fois que la personne n'est plus là, mais peut-être là en fantôme ou plus là du tout de façon réaliste, le lieu se vide. Et en même temps, la vie continue, donc des gens vont s'emparer de ce lieu. Mais voilà, on ressent quand même le vide et on ressent aussi la charge des souvenirs et de ce qui a été là avant. Quoi.
On devient les fantômes de nos enfants.
Waouh.
Interstellar, c'est pas moi.
Je voulais juste faire un big up à Françoise Lebrun, que je trouve incroyable dans ce film.
César, j'annonce
ça. Ouais, j'espère qu'elle va prendre le César.
Elle a une capacité à faire ressentir en un regard perdu la détresse de la perdition de sa... Voilà,
non, mais même quand elle marmonne et tout, pour elle, des trucs, tu sais pas ce qu'elle raconte.
Alors
tout,
ça, Gaspard Loé lui avait dit dans ses indications de jeu que tu peux parler, mais faut que tu bafouilles. Faut pas qu'on comprenne ce que tu dises ou quoi que ce soit. Notamment, c'était une indication de jeu dans le fameux plan séquence où il parle de la maison de retraite, tout ça.
Et ça rend ces moments où elle est lucide encore plus touchants. Quoi. C'est vraiment comme si tout d'un coup, elle se quittait elle-même, elle n'était plus elle-même. Quoi. Mais, ouais.
C'est puissant.
D'ailleurs, il y a une scène qui est ouf, c'est quand ils sont à l'hôpital et que le père est mort et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et que tout d'un coup, au début, c'est le fils qui joue le rôle de père pour sa mère. Et après, elle reprend sa place de mère à consoler son fils et tout. Hyper belle cette scène.
Ouais,
c'est pas jouasse tout ça.
C'est pas jouasse.
C'est pas jouasse, mais voilà.
Mais c'est la
catharsis. Et un autre truc intéressant, c'est qu'on dirait qu'il rend un peu des petits hommages à Dario Argento, des fois dans la lumière, le côté giallo.
Ouais,
il y a presque même des fois un côté un peu flippant du point de vue de la femme quand elle est complètement désorientée. Ouais. On sent qu'elle a l'impression d'être suivie ou quoi.
Toute la scène de crise cardiaque,
c'est éclairage rouge.
Rouge bleu, il passe d'une pièce rouge bleu, déambule dans les couloirs, c'est limite de la snorky cam. Enfin, c'est. Enfin, non, franchement, chapeau de metteur en scène, quoi.
C'est très riche.
Y a vraiment rien à dire, quoi. En comparaison à ses autres films, c'est encore une prouesse.
Je pense que c'est un de ses meilleurs.
Surtout que le film a été tourné en 25 jours, quoi. Donc, le mec, il a dû chauffer du cerveau pour tout mettre en place, quand même. Et que ça rende ça, c'est. GG. Par contre, est-ce que j'irai le revoir?
Non!
Mais il y a un truc aussi qui m'a marqué. C'était pour rebondir à ce que tu disais sur le. Au moment où tu vois l'appartement se vider, où en gros le passage de ces deux vieux à l'image disparaît, c'est que moi j'ai vraiment fait le parallèle entre cette scène et le tout début du film, où le tout début du film, il n'y a pas de dialogue et c'est marqué par la radio.
Oui.
Et tu as la radio où il y a des émotions qui parlent, comme par hasard, de la mort et du deuil. Et il y a tout un passage qui est assez long sur le deuil, que j'ai trouvé très. Enfin, je trouve que j'ai trouvé ça très beau, parce que dès le début du film, on te dit, voilà, le deuil, c'est ça, la personne vit en toi. Enfin, il y a tout un... Comme si te préparait, toi, spectateur, regarde ces gens-là, tu dois déjà commencer à faire le deuil de leur disparition, quoi. Et je trouve que ça fait vraiment écho avec la fin, où même si physiquement ils sont plus là, bah en fait, ce film, il nous a marqué, on se rappellera quand même de ces personnages, et ça fera toujours écho aux personnes qu'on a...
exister.
C'est ça. Et ça fera toujours écho aux personnes qu'on a connues dans la vraie vie, qui sont plus là, ou qui seront plus là un jour. Et je sais pas, je trouve que le film est magnifique pour ça aussi, quoi.
Totalement.
Ouais,
c'est l'anti Game of Thrones. Parce que genre tu sais que les gens vont mourir, alors que dans Game of Thrones non.
Mais bon, pour qu'on rigole un petit peu, je propose qu'on critique tous Kiki.
Ah putain, Kiki.
Ah non, je voulais sauver l'honneur de Kiki.
Sauver Kiki.
Attendez, c'est quand même un peu chiant quand t'es chez des grands-parents qui perdent la boule et tout et que t'as que des petites voitures pour jouer. Donc moi, je comprends que Kiki, il essaye d'attirer l'attention en cognant sa voiture.
Il a joué et tapé avec ses voitures comme
il
si c'était.
Il joue, mais pas d'une manière normale.
Comme si. Tape ses batteries là, insupportable Kiki.
En même temps, son père, il fume du crack. Hein, que tu veux qu'il fasse quoi, le gosse
Oh là là, Kiki.
Bon, voilà, allez, Kylian.
Ouais. Notre critique.
Arrête les voitures.
Et Philippe Royer, hein, big up.
Et putain, il y a Philippe Royer dans le film.
Bien sûr,
incroyable.
5 secondes de respiration.
Le cinéma, mais ce n'est pas ça le cinéma.
Ah, j'ai senti de la joie d'un coup monter qui a
redescendu. Très vite, très descendu parce qu'on est passé dans la pièce
à
côté.
Le ballon, pouf, éclaté.
Voilà, je tenais juste à dire que c'est certainement la scène post-générique la plus longue que j'ai jamais vue de ma vie.
Donc, c'est pas faux.
Voilà, 2h22 de scène post-générique. C'est assez
fort. Marvel prenant de la graine.
Et pas un seul Captain America, chapeau. C'est assez fort. Ouh, mais bon, dis donc,
c'est fait, hein,
ouais,
même, hein.
des émotions. Nous, on en a ressenti quand même beaucoup. Hein, voilà.
Mais la presse, alors, ils en ont ou pas des émotions?
Bah, transition.
Est-ce que le Figaro a un cœur?
La presse, effectivement, bien sûr. La presse a vu le film, la presse a écrit sur le film. Et on va commencer par les notes. Et cette fois, même si c'est un film français, vu l'aura de Gaspard, je suis allé voir ce qu'on en pensait aussi les étrangers, quoi.
Ah
les,
bon,
enfin, les étrangers, les Américains.
Il y a eu du Metacritic, du Rotten Tomatoes.
Effectively.
Oh.
Ce n'est pas un vrai mot anglais.
Indeed.
Et oui, Rotten Tomatoes, on est sur du 95%, quoi, sur 22 critiques, c'est quand même pas mal. Et sur Metacritic, on est à 81%, ce qui
c'est
est quand même très bien.
Putain, mais c'est énorme.
Et même. Sur Allociné, on est à 3,9, donc voilà, les gens, ils ont aimé.
Mais je crois que j'ai pas mal lu que c'était genre, tout le monde dit, genre, c'est son meilleur, c'est son meilleur.
Ouais, mais pas tout le monde. Ne t'inquiète pas, il y a quand même des gens qui n'aiment pas.
Il y a quand même les Airrock et les cahiers du cinéma.
Criticat, le journal des chats.
Non, c'est cette fois, ce n'est pas les cahiers du cinéma, parce que les cahiers du cinéma, ils ont aimé. Mais c'est mon deuxième, alors du coup, ça m'a perturbé. Alors, je commence par les cahiers du cinéma, du coup. Les cahiers du cinéma nous disent, Gaspard Noé a-t-il jamais filmé autre chose que la mort au travail, ou du moins, la mise en spectacle de la menace perpétuelle qui a fait planer sur tout, hein ?
La mort au travail ?
Je vais réfléchir là-dessus.
La lourdeur du programme. La lourdeur du programme sera finie ici par la mise en scène enfin incarnée de cette précision. La mort à l'ouvrage n'a d'autre nom que la vie.
D'accord, à l'ouvrage, voilà. Parce que la mort au travail, moi je pense à un mec dans un open space qui meurt.
Mais oui, et c'était ça le suspense.
Six premiers degrés.
Culture au point, j'enchaîne. En toute sobriété, avec une puissance formelle qui n'a rien de l'outrecuidance, Gaspard Noé raconte avec une frontalité désespérée mais jamais racoleuse un délitement qui s'avère aussi et surtout un enfermement. Vortex, ce film décidément majeur, ne ressemble qu'à lui-même par son mélange de profonde tendresse et de nihilisme qui laisse parfaitement abasourdi, ainsi que par un trio d'acteurs d'une justesse confondante. Chef-d'œuvre dont nous ne nous remettrons pas.
Le mot est lâché.
C'est bien dit, mais ça aurait pu être dit plus simplement. C'est très juste.
C'est la presse.
Bienvenue à l'émission de critique de critique.
Écran large. Gaspard Noé réalise sûrement son film le plus mature de par son sujet et son traitement, et aussi son plus grand public malgré sa rudesse. Vortex est peut-être aussi son film le plus triste et émouvant.
C'est pas...
Love, il est bien triste aussi.
Avoir à lire. Bon, là, je suis passé aux gens qui n'aimaient pas trop le film.
Déjà ?
Bah oui, parce que sinon, il n'y avait que des gens qui aimaient, c'était dommage.
C'était chiant, ouais.
Bah ouais. Avoir à lire. Gaspard Noé offre une mise en scène dépouillée, brutale, qui ne cède à aucune fantaisie de cette appréhension de la sénilité. Cette vision apocalyptique et dépressive du monde est certes réelle, mais sans doute qu'au cinéma, on attend de voir sur un écran une part réinventée de la vie et pas ce que l'on sait déjà trop bien.
On veut être réenchanté.
Bah oui, mais le cinéma véhicule des émotions. Après, les émotions, est-ce que ça doit toujours être du feel-good movie? Eh bien non, monsieur, permettez-moi de vous dire que non.
Je pense qu'il n'aime pas trop le réalisme.
C'est pas un docu non plus. Hein. Le côté, leur appart qui est envahi de livres et tout, enfin, je trouve qu'il y a quand même des idées de mise en scène qui sont pas réalistes.
J'ai vu des apparts parisiens envahis de livres comme ça. Hein.
Ah moi, j'ai trouvé ça plutôt réaliste.
Par contre, je me demande comment ils font le ménage.
Bah, ils le font pas.
Mais ils le font pas.
Comment ils font pour pas avoir une tonne de poussière alors?
Bah, il y en a beaucoup, mais c'est juste que.
Je ne préfère pas y penser.
À partir d'un certain âge, tu t'en fous. Hein. L'Obs. Pourquoi étirer sur 2h20 une expérience de court-métrage plombée par des considérations d'étudiants? C'est tout.
Oh. Ils ont pas compris en fait. Okay. Le temps est nécessaire dans ce film quoi, pour te faire ressentir.
Bah oui, parce que c'est la durée de.
C'est qui a écrit cette critique?
C'est L'Obs.
Ah, t'inquiète, quand ils seront en fin de vie, ils le reverront.
Ils le reverront, ils diront ah oui, c'est
considération d'étudiants, c'est ça qui me choque le plus en fait. Ouais.
Oui, bah, j'imagine que c'est parce là, que c'est dès qu'ils ont vu de la mise en scène, c'est Gaspard Noé, ils pensent que c'est genre de la branlette d'étudiants, mais c'est parce que.
Bah, ils ont vu des refs à Godard, ils se sont dit c'est un petit étudiant.
Non, mais c'est pas comme si le mec avait quelque chose à prouver ou quoi que ce soit. Gaspard Noé, déjà, bon, la preuve qu'il est un Metacritic et un Rotten Tomatoes, excusez-moi, c'est pas un étudiant quoi. Donc, hein
mais la drogue, c'est les étudiants.
C'est ça la French Touch, ok.
Non, mais voilà. Oh là là, la subjectivité de ces critiques presse, moi je suis désolé.
Ça me révolte.
Le podcast s'appelle Sans aucune objectivité. Le mec est choqué par tout ça, tant de subjectivité.
Bon allez, j'enchaîne avec La Croix. Où est Jésus?
Ah,
non.
C'est fou. Parce que j'avais bien une réponse.
Tu déconnes.
T'imagines, ça aurait été la critique. Et non mais c'est très bien, mais où est Jésus? Cabana. Non, La Croix nous dit « Le sulfureux Gaspard Noé se penche sur les derniers jours d'un couple âgé et malgré un dispositif virtuose sur le plan cinématographique, n'évite pas le piège d'une certaine complaisance morbide. » Non, moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je ne trouve pas qu'il y ait de complaisance dans le film, loin de là. Mais bon, si le spectacle de la réalité les met mal à l'aise, écoutez.
Bah, il te montre tout, quoi.
Oui, mais je trouve qu'il n'y a pas de complaisance. Il a pas l'air, ça ne lui fait pas plaisir de te le montrer, je trouve.
Moi, je trouve qu'il a un côté sale gosse quand même quand, par exemple, le mec est en train de mourir et que sa meuf dort et qu'il les filme exactement dans la même position. Genre, il y en a une qui dort de son meilleur sommeil et l'autre qui est en train de crever tout
pour
seul.
Pour moi, ça, c'est de l'ironie dramatique, tu vois.
Ouais, mais c'est du Gaspard quand même. C'est pas neutre.
Je sais pas. Moi, je le dirais.
Il y a quand même une cruauté, je trouve.
Ouais, mais je dirais pas complaisant quand même. J'aime pas le terme complaisance.
La dernière phrase que Lutz, il dit au gamin, c'est quand même. Enfin, moi, elle m'a choqué un peu, mais. Après, c'est son point de vue. Hein,
les gens morts, ils ont pas de maison.
Oui, les maisons, c'est pour les vivants. Parce qu'en gros, son fils, il veut être rassuré. Il lui dit, papa, est-ce qu'ils sont dans une nouvelle maison? Non, non, ils sont pas dans une nouvelle maison, ils sont morts. Ouais, bon, voilà. C'est Gaspard Noé.
Tu sais, d'un côté,
quoi,
moi, je préfère qu'on me dise ça, hein, gamin. Comme ça, je sais.
Oui, non, après, c'est des points de vue. Mais je veux dire, c'est du Noé.
Il n'y a pas d'espoir. Bah,
oui,
ça,
voilà,
ça, c'est pas nouveau.
Il est cruel avec ses personnages, dans avec les spectateurs, souvent.
Aucun de ses films, il y a de l'espoir. Jamais tu termines en mode « ça va, il y a de l'espoir ».
Mais qu'est-ce que vous appelez l'espoir, du coup?
Bah, je sais pas, une espèce de bouffée qui peut continuer hors champ, tu vois, une bouffée d'air.
Fin, on la connaît tous, hein, on y va tous.
Non,
donc
l'idée que, par exemple, le fils pourrait aller un peu mieux. Non,
ouais, là, il
met
un point, quoi.
Tout est refusé, en fait, chez lui.
Il met un point, puis même, il aurait pu mettre hors champ les phases de... Bah, des cadavres qu'on recouvre ou qu'on montre ou des trucs comme ça, tu vois, parce qu'on avait compris qu'ils étaient morts, tu vois, ou même pas les montrer du tout.
Ça.
C'est souvent ce qu'on fait dans les trucs tout publics à la Warner et tout.
Mais il le fait parce qu'on le fait jamais.
Ça, tu vois.
Mais oui, c'est ça.
Mais parce que ça fait partie de la vie.
Et puis parce
ça,
que
fait,
oui, c'est ça. Faut
je pense qu'il aime bien montrer des cadavres aussi.
Oui,
hein,
je pense
pas un truc comme
y a
ça.
Des
ouais,
gens, c'est leur boulot en fait.
Et au bout d'un moment, faut se confronter aussi à ça, quoi. C'est quand on y est tous confrontés et après.
Mais voilà, il a rajouté sa petite touch avec la petite phrase de fin, je trouve. Mais moi, je l'ai perçu comme ça aussi. Je fais ah là, on a notre Gaspard, quoi, en mode pas d'espoir, quoi. Pas d'espoir.
Tu vas mourir, Kiki. Et t'auras plus de maison.
Mais c'est vrai, non, mais quand tu fais le tour dans sa filmo, j'ai pas vu Seul contre tout, c'est le seul que j'ai pas vu, mais de toute sa filmo, à chaque fois, ce sont des personnages qui finissent mal et où il n'y a pas d'espoir.
Mais voulez-vous qu'il mente à cet enfant?
Mais.
J'ai envie de dire oui.
Non, je peux dire
l'ont...
qu'après, Kiki fait plus le point de ses voitures.
Pas,
Père Noël, c'est pas le plus gros mensonge à monter.
Non, il fait bah non, ils ont pas déménagé, tes grands-parents, c'est pas une nouvelle maison.
Ils auraient pu lui dire, ils sont ailleurs ou ils sont mieux.
Tu et Papa Noël, il va
mais là, on arrive sur un débat d'éducation. Moi, je suis d'accord avec par le personnage de Lutz. Moi, je pense qu'il faut dire aux enfants la vérité.
Après, son père, c'est un crackhead aussi. Donc peut-être
oui,
aussi,
et la veille, le gamin l'a vu en train de se droguer quand même dans son salon.
Voilà. C'est vrai, donc il y a ça aussi, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment aucun personnage où il y a de l'espoir.
Mais Gaspard Noé, il n'est pas toujours d'une subtilité folle, voilà, c'est tout ce
que. Bah, mais non plus, après,
vous
tu
êtes en train de le désinguer.
Non, mais c'est pas ça, on désingue pas. De toute façon, on parle dans l'ensemble du film.
C'est frontal, quoi.
L'ensemble du film est là, mais c'est vrai qu'il y a des petits détails. Moi, je pense notamment avec l'ouverture sur Boris Cyrulnik qui parle de deuil et tout. Alors, oui, c'est bien trouvé parce que du coup, on fait de l'intradiégétique et tout, et on évite de mettre des choses un peu plus grotesques. Mais pour moi, ça restait quand même un peu les pieds dans le plat, quoi. Tu vois, c'est.
Après, il y avait quand même Stéphane Alix qui était cité. Et c'est pas anodin, je pense, dans l'émission. Stéphane Alix, c'est un journaliste qui s'intéresse beaucoup au paranormal, au fait. Pour résumer.
À l'au-delà.
Ah.
À l'au-delà.
Ah oui, ok.
Qui a fait beaucoup d'expériences dessus, qui a perdu son frère en Afghanistan, qui a un bouquin absolument passionnant dessus, où il raconte le jour où il a perdu son frère parce qu'ils étaient ensemble en Afghanistan. Et au fait, il a toute une quête pour essayer de communiquer avec son frère.
Ah oui.
Et qui se termine en Amérique du Sud.
Tu vois, peut-être à la limite, je dis pas d'espoir, mais peut-être que lui, son espoir, il est justement dans les choses qu'on ne voit pas. Parce que c'est vrai qu'Hunter the Void, pendant tout un moment, c'est quand même la virée d'une âme de corps en corps, de lumière en lumière. Et la fin du film dans Vortex, c'est la caméra qui s'élève, qui se retourne.
Oui, c'est vrai.
Et tout, donc
c'est un plan qu'il a piqué à Michael Bay.
C'est du drôle. Hein.
Et à la fin de Hunter the Void, ça finit sur une réincarnation quand même.
Ouais, mais la réincarnation est un peu. Tendu, hein, il se réincarne dans le fils de sa sœur, donc c'est un peu voilà. C'est...
Marlène.
Oui, mais pour rester avec ses proches, tu vois.
Ouais, mais ça, je sais pas si c'est de l'espoir ou du glauque ou.
Non,
mais
je pense que c'est. Moi, je pense que c'est de l'espoir, mais c'est vrai.
Moi, j'ai l'esprit tordu. Qui c'est qui a décidé d'aller assassiner un mec à grand coup d'extincteur dans la gueule
Il était là, il s'est trompé, c'est tout.
Ça
moi,
y est,
j'ai l'esprit tordu.
Il a atteint le point Godwin de Noé.
Tu cherches le ténia.
Non, mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que moi, l'espoir, je le vois dans ce plan de fin, qui est un plan d'interrogation. C'est peut-être. C'est un peut-être.
Ouais, mais l'espoir, je trouve ça du coup, il est mystique. L'espoir, il est invisible.
Et de la même manière que dans
Irréversible,
l'espoir est dans l'ordre du montage. Pour moi, je n'en démordrai pas. Irréversible, c'est de l'espoir parce qu'on finit par le début qui est le plus
ouais,
beau.
Ouais, mais moi, mon cerveau ne peut pas s'empêcher de remettre. Enfin, oui, mais je comprends. Mais c'est
ah, ils
ça
sont
c'est,
beaux. Hein,
c'est très
bon,
antithétique.
Hein.
Quoi, c'est...
En tout cas, vas-y, dis une autre chose, on va te contredire. Vas-y.
Vas-y, dis un truc.
Joachim, c'est le meilleur film du monde. Quoi ?
Quoi ? Tu veux qu'on parle ?
Contredisez-moi là-dessus. Spielberg est un génie.
T'as dit quoi ?
Voilà, ça ferme des bouches. Hein.
Alors, Jonathan Spielberg, non.
Ouais, surtout pas Jean Spielberg.
Il a eu de très mauvaises notes.
Terrifiant, Jean Spielberg.
Mais oui, ça élève le débat quand même. Un bon film. Après,
ah oui, ouais. C'est bien, on en parle. Ça avait des trucs. Merci, Gaspard.
Est-ce que c'est
fini ? Eh oui.
C'est fini.
Oui,
c'est
fini.
Eh ben, écoutez, voilà, il y en avait les deux côtés.
Les deux camps, j'essaie de mettre les deux camps.
Au moins. On avait les split screen.
Toi, tu lire les deux en même temps.
Attends, en montage, je peux le faire.
Voilà, sinon, petite anecdote. Moi, j'ai vu ce film. Par contre, il y a quelque chose qui m'a sorti du film. C'est que la salle du GCL, là, juste au-dessus des travaux, parce qu'en ce moment, c'est en travaux, marteau-piqueur pendant toute la séance. Première fois que je vois ça dans un cinéma.
Salle 32
À midi, j'y étais allé.
Oui,
salle 21. Donc si vous êtes dans les salles 21, 23, 22 là sur le côté là et que vous connaissez bien UGC Léal, surtout n'y allez pas en ce moment, c'est marteau piqueur. Enfin du moins en journée.
Nous on est passé juste après toi, on a eu les marteaux piqueurs pendant les bandes annonces mais pas pendant le film.
Ouais, ils avaient dû finir leur journée de travail
voilà.
Mais
allez-y l'après-midi. Nous
on était pas dans la même salle du tout, il y avait pas de bruit.
Ça m'a sorti un peu. Ça m'a sorti un peu mais c'était
film.
En plus j'avoue voir ce film là avec des travaux.
J'avoue ça va être l'enfer. Et par contre anecdote, il y a eu à un moment il y a eu plein de jeunes, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça.
Oui. Il y a beaucoup de jeunes dans notre
qui ont débarqué dans la salle en disant ouais trop bien un film et tout et ben je peux dire qu'ils ont bien fermé leur gueule.
Oui.
Ouais, bah pareil j'avais des vieux aussi, ils ont bien fermé leur gueule.
C'était gros silence de mort. Par contre il y avait une fille dans notre rangée, vraiment elle a pleuré.
Ah, putain,
toute sa vie
de mort, quoi.
Sur les 40 dernières minutes quoi.
Bah ouais, bah après forcément ça peut
mais je
aussi
compatis complètement mais elle était vraiment.
Il y avait aussi une fille qui était traumatisée en PTSD sur les genoux de sa pote quand elle est partie.
Ah c'est Gaspard.
Elle était là,
il nous laisse toujours pantelant.
Mais n'ayez pas peur, allez le voir hein.
J'aimerais bien ça. Du coup, si c'est son meilleur film, je pense que c'est peut-être celui qui va le mieux marcher.
Ça, je pense pas.
Je sais pas.
C'est pas sexy la bande annonce.
C'est pas toujours les meilleurs qui marchent le mieux. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. On se souvient.
Sauf Jurassic Park.
On se souvient de Miss Rhône-Alpes.
Ah, j'avais pas fait ce parallèle là.
Jamais dans nos cœurs.
C'était elle. Ah,
et non, c'était pas elle, c'était Miss Ciel de France qui est partie prendre la couronne.
Oui, oui, non, mais c'est elle qui a pas gagné.
Ouais.
Oh là là.
Oh là là, putain, on parle des Miss quoi.
Fais ta Miss bientôt.
Gaspard Noé, hop, les Miss.
Bon, bah écoutez, ce fut un plaisir de discuter cinéma autour des micros avec vous. C'est pas fini, il y en aura d'autres. Mais voilà, ah oui, ça fait aussi plaisir de parler d'un réal qu'on aime bien et puis surtout qui est revenu au programme de Fetabea. C'était le premier. Parce que John Watts, ça compte pas.
Oh merde.
Donc, eh ben, un bisou à Gaspard.
Voilà, au
bisous
prochain.
Gaspard, au prochain.
Qu'est-ce qu'il va encore nous inventer
Siphon
pour le prochain? Ça se trouve, il faudra mettre un casque.
Siphon.
On sait pas. Hein. En réalité virtuelle. Et franchement, il
n'empêche,
c'est pas
tu déconnant. Sais que j'y pensais, je disais, imagine Enter the Void en VR.
Oh, t'es une la gerbe. En VR, c'est la gerbe.
Ouais, mais tu vas défoncer.
Ah, on parle. Là, on parle.
Là, on parle.
Mais
là, on parle.
Plus la gerbe, vous êtes fous.
Non, mais un bon film d'horreur, tu vois, Gaspard Noé.
Ouais, ça serait trop bien.
Enfin, même si Climax aussi un peu vers là, tu vois,
ouais,
mais un vrai film d'horreur, genre slasher à la Gaspard Noé, why not? Ou SF? Un genre qu'il a pas encore fait, tu vois.
Ou un western.
Oh putain!
Une comédie romantique.
Un film de viking.
Ça fait Viking.
Ouais, putain, mais c'est pas une comédie.
Venez, on sait tous les genres qu'il a pas fait. Zombie.
Oh, un film de zombie par Gaspard Noé. Trop
ouais,
bien.
Azanavicius, il y est déjà. On peut pas tout faire.
Voilà, hein. J'ai peur de ça. On oui, en parlera plus tard.
Après, non, mais je pense
non,
pas
mais
que
il reste quand même très réaliste
oui,
dans
oui,
ces films.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Les zombies, tu
genre,
crois que c'est
hein,
pas réaliste, excuse-moi.
Il va pas vraiment dans le genre, au final.
Il est pas dans l'imaginaire.
Il a pas besoin, il l'intègre.
Il a le genre du mystique, quoi, si on peut dire, si on peut appeler ça un genre, mais et encore.
Le genre psychotrope.
Ouais, ça par contre, c'est ça, Cam, hein, sans vouloir
oh
faire. Bon, allez, il va falloir qu'on arrête parce que sinon on peut parler jusqu'à pas d'heure comme ça. Et on va se dire au revoir. Allez.
Ok, au revoir.
Voilà, c'était le match retourne et retourne, comme dirait un certain
Franck Ribéry.
Non, chef Dumas. De tourne et retourne, match retour de Gaspard Noé avec son film Vortex, hein, qui nous a provoqué des émotions. Et c'est ça qu'on recherche, nous, dans le cinéma, comme dirait Philippe Rouillet. Oui, monsieur. Oui, monsieur, le cinéma, c'est ça. Oui, monsieur. Ah, la semaine prochaine, on va voir si ça va nous tourner et retourner, vu qu'on va partir sur un talent en massif de Nicolas Cage.
Des émotions.
Là, on va plus rigoler.
Là, c'est, je pense que c'est, on a fait le côté pile, on aura le côté face de la pièce là, pour le coup, hein, vraiment. Deux salles, deux ambiances, du coup. Hein, mais ça nous procurera peut-être des émotions de tout autre ordre. Voilà. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Écoutez-nous sur toutes les plateformes d'écoute ou bien directement via notre site www.fetabea.fr. Et c'est tout pour nous. À ciao, bonsoir. Bisous et profitez bien de la vie tant qu'il en est encore temps.
Et oui, la vie est une fête qui finit trop tôt.
Et au petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta.
On y arrive toujours, quoi. On y arrive
Patoche,
toujours.
Patoche, mais il a tout dit, quoi.
Toujours, toujours.
Mais le monde tourne autour de Patrick.
Oui. Allez, ciao.
Salut, bisous. Ciao.
Arrivederci. 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 Arrivederci.